Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Mode d'emploi pour tirer le diable par la queue sans qu'il ne s'en aperçoive.
Prenez-les par défaut.
Mode d'emploi pour bien ranger un tas de sable dans votre valise en vue d'un voyage lointain.
Choisissez du sable fin à placer en tas dans un des côtés de votre valise.
Mode d'emploi pour retourner sa veste avec élégance selon la tradition classique et sans en arracher les boutons.
Prenez des gants et filez doux.
Mode d'emploi pour jeter une pierre dans le jardin de votre voisin durant les heures de bureau.
Choisissez une pierre conséquente et jetez-la avec force et conviction.
Mode d'emploi pour créer de l'ombre naturelle sur une terrasse ensoleillée.
Vous pouvez utiliser un parasol ou éventuellement une ombrelle.
Mode d'emploi pour réussir un examen avec des taches de graisse sur sa chemise.
Jouez au loto.
Mode d'emploi pour monter sur une échelle sans barreaux.
Prenez appui sur vos mains.
Mode d'emploi pour se prendre pour une statue grecque, époque archaïque.
Trouvez chez un antiquaire un socle classique, montez dessus et ne bougez plus.
Mode d'emploi pour bronzer intelligemment dans une cabine de bronzage alimentée par des capteurs solaires.
Buvez régulièrement un verre d'eau.
Mode d'emploi pour griller un feu tricolore sur le barbecue des voisins.
Tenez-le discrètement et aromatisez-le filant la métaphore. C'était un texte d'Alain Snyers que nous recevons aujourd'hui.
Bonjour Alain Snyers.
Bonjour.
Diplômé de l'École nationale des arts décoratifs de Paris, Alain Snyers est cofondateur du groupe Intel, collectif duquel il sera membre jusqu'en 1978. En 1979 et 1980, il s'associera avec Hervé Fischer pour divers projets d'art sociologique. Il fut directeur de l'École d'art d'Amiens de 1991 à 2004 et coordonnateur artistique de la Fête des Lumières de Lyon jusqu'en 2010. Alain Snyers vit et travaille en Isère et mène une pratique d'intervention et d'installation ayant principalement trait à la ville. Il développe une démarche d'observation, de détournement et de parodie en regard de différents aspects du quotidien.
Ils n'ont pas le droit de faire ça.
Snyers. Comment est né le groupe Intel et pourquoi ce nom ?
Le groupe est né de la rencontre de trois garçons à l'École nationale des arts décoratifs qui avaient envie, en 1974-1975, d'avoir une action commune, d'intervenir sur des nouveaux lieux qui étaient, dans l'occurrence, la rue, la ville. Donc, les lieux de l'anonymat, d'où ce nom, Intel.
Et vous commencez par faire quoi, dès le départ ? Quelle est votre intervention ?
Ce sont ce qu'on appelle des interventions, des appropriations d'espace public par des attitudes, des positions, des prises de prises d'objets, des déambulations, s'inspirant de l'art du geste, de la parade, de la manifestation, utilisant aussi les codes de la rue, l'affiche, la signalétique, le comportement des passants, les voitures, la construction, puis tous les thèmes qui sont liés au quotidien.
C'est essentiellement aussi en milieu urbain.
Alors, c'est principalement en milieu urbain pour une raison que j'expliquerai de façon très simplement. Pour nous, le monde urbain est notre paysage et nous sommes en quelque sorte des paysagistes urbains. Nous vivons dans les villes. C'est dans les villes que se trouve tout le monde, les contradictions, les intérêts, nos passions, nos champs d'investigation artistique. Donc, c'est du paysage urbain.
On a l'impression que le langage a beaucoup d'importance pour vous. Le premier texte qui a démarré l'émission nous le montre. Vous aimez vous amuser avec les mots.
Alors, les mots, c'est un outil formidable pour véhiculer des images, faire des intentions pour décliner. Et puis, avec les mots, on a des tiroirs, comme ça, avec plusieurs profondeurs qui nous permettent de raconter des histoires, puis en même temps de mettre en scène des situations, puisqu'on peut les nommer, mais aussi les mots, on peut les tordre dans des sens différents quand on les met tous ensemble, et du coup, ça crée d'autres histoires.
Alors, vous avez plusieurs sortes d'expérimentations. Par exemple, parfois, vous collectez des choses. Enfin, il y a plusieurs manifestations de ce que vous faites, en quelque sorte.
Alors, le principe est une pratique, je dirais, plurielle, voire polyvalente, où on ne s'interdit rien, et surtout pas d'être enfermé dans une étiquette ou dans une discipline de pratique artistique. Dès l'instant où l'art contemporain a ouvert les portes du « tout est possible », et surtout pas du n'importe quoi, il faut bien faire la nuance, à ce moment-là, tous les gestes et les comportements sont possibles dans nos protocoles. Alors ça peut être effectivement du ramassage d'objets témoins, sous forme d'une archéologie du quotidien, ça peut être la création d'affiches, ça peut être des slogans, ça peut être des objets qui sont construits ou réorganisés de façon autrement, ça peut être des photographies, ça peut être pour moi beaucoup de dessins, ça peut être du collage de situations, d'objets et de signes.
Et vous dites, à partir du moment où l'art, dans l'art, tout est possible, ce tout est possible, qui est-ce qui l'a lancé, qui l'a initié ? En tout cas, de qui vous inspirez-vous ?
Alors, le tout est possible répond déjà à une légitimité historique, puisque l'art est un enchaînement de mouvements, d'écoles, d'artistes. Donc forcément, on n'est pas né de rien, on est né d'un héritage, en quelque sorte. Bon, pour ce qui me concerne, c'est plus les comportements, l'art des comportements en rupture depuis les avant-gardes du début du XXe siècle, de Dada à nos jours, en passant par les Fluxus, les post-Dada ou les situationnistes. Donc c'est aussi des manières de réorganiser le réel et de regarder le monde autour.
Il y a également, vous vous emparez des objets, vous intervenez avec ces objets auprès du public. On a l'impression que dans vos pratiques, régulièrement, il y a comme une espèce de détournement.
Alors, c'est d'abord une appropriation, puis c'est un détournement. Effectivement, on oriente l'objet vers un autre territoire que celui pour lequel il est construit. Alors, le modèle classique, c'est le Ready-Made de Marcel Duchamp, de 1913-1914, qui va être un peu comme objet le grand-père de tous les détournements possibles d'objets, et qui repose tout de suite la question que vous évoquiez il y a quelques minutes sur qu'est-ce qui définit le tout est possible. Dès l'instant où la porte est ouverte et que la chose est nommée, parce qu'au fond, l'histoire de l'art contemporain, c'est de nommer les choses, et c'est vrai que pour revenir un peu en arrière, la notion de l'appellation ou de l'intitulé, donc du mot, définit la chose.
On va le voir là dans les textes que vous allez nous lire. Quel mot employer, l'utilité de ce détournement. Pourquoi faut-il détourner ? Enfin, pourquoi vous avez-vous cette pratique-là ?
C'est une pratique qui permet de relire, comme je l'ai un peu dit, le réel et de le redécoder. C'est une manière aussi d'être en distance avec, même si le point de départ est ce fameux paysage urbain, social, immédiat, quotidien, dans lequel nous sommes à la fois imprégnés, mais aussi dans lequel par lequel nous sommes influencés, puisque c'est cela qui nous organise et qui nous nourrit.
Et ce qui permet aussi de l'analyser aussi, quelque part.
Alors, bien sûr, c'est une loupe, en quelque sorte, dans des micro-situations, avec des modes de fonctionnement à chaque fois différents et réinterrogés. Effectivement, c'est une pratique d'art assez questionnante qui va au-delà du constat d'huissier.
Et comment c'est perçu par les gens, enfin, le public,
Alors, c'est très variable selon les publics. Il y a deux types de publics, pour faire court. Il y a le public qui a pris rendez-vous et qui vient dans le lieu de la manifestation culturelle, centre d'art, musée, galerie. Donc là, il est plutôt acquis à la chose, a priori. Et puis, ce qui a défini les interventions au milieu urbain, c'est d'aller à la rencontre d'un public non informé, face auquel on arrive comme des intrus, et c'est le principe de ce que j'ai défini par la suite comme des manœuvres en milieu urbain. C'est une intrusion dans le quotidien pour interroger son déroulement, le perturber de certaines manières. Et là, le public peut avoir des réactions extrêmement différentes qui ne sont pas forcément des réactions d'amateurs d'art. Ce sont des réactions d'anonymes, et là on revient à la notion d'un tel de tout à l'heure, qui se retrouvent pendant un temps X, dans un espace Y, confronté à une situation différente de son déroulé habituel.
Alors, est-ce que c'est ça qui nous autorise à parler d'art sociologique ?
Alors, oui, l'art sociologique a été une pratique développée par nombreux artistes, surtout au milieu des années 70, et qui a posé les bases du rapport art et société par des formes de médiation très, très, très immédiates, puisque recourant à des moyens connus, détournés, à travers les médias, la communication de masse, à travers les pratiques de dialogue, donc une forme d'esthétique relationnelle, pour employer des termes plus développés par la suite, qui crée l'espace d'art à travers l'espace de rencontre et de débat. Donc c'est aussi des pratiques assez éphémères, desquelles il reste très peu de traces.
On peut donner quelques exemples de performances. Enfin de, oui. Par exemple, la soirée carton. Qu'est-ce que c'est qu'une soirée carton ?
Alors, quand on fait une soirée, autrefois, on envoyait un carton pour inviter les gens. Bon. Mais carton, c'est aussi, ce n'est pas que le carton d'invitation, c'est aussi le carton d'emballage, la boîte en carton marron. La soirée carton, c'était une performance faite à Paris il y a pas mal d'années, où l'idée était de remplir un appartement au rez-de-chaussée de je ne sais combien de centaines de cartons fermés, c'est-à-dire en volume, pas aplati, de façon à remplir le volume de l'appartement, trois pièces, à une hauteur de plus de 2 mètres, et d'inviter par un carton des gens à venir prendre l'apéritif, sachant pas qu'ils étaient invités au moins une centaine. Mais comme il y avait tellement de cartons, on ne pouvait pas ouvrir la porte, il fallait donc passer par la fenêtre, ce qui crée des situations particulières, à la fois par un lieu d'appartement qui devient une espèce d'aquarium à carton, mais en même temps qui est aussi une espèce de jungle, parce que les gens devaient essayer de se faufiler un chemin pour pouvoir au moins accéder au bar et se retrouver. Donc c'est une action éphémère, puisqu'au bout d'une heure, forcément, par le nombre de personnes, une centaine, tous les cartons étaient piétinés.
Alors une autre qui est très très drôle quand même, c'est la performance touristo-routière, l'autocartistique à Québec en 81.
L'autocartistique, voilà. On joue encore sur les mots. Alors c'est le principe aussi des tournements encore des circuits touristiques dans les villes, comme à Paris, comme à Rome, comme à Madrid, où il y a des autocars qui organisent des visites guidées avec des cassettes, des bandes enregistrées, maintenant c'est autrement, et qui commentent les monuments principaux devant lesquels l'autobus passe. À Québec, j'ai juste fait une inversion, j'ai pu avoir la bande de Paris Vision, qui est l'organisme de l'époque des visites de Paris, j'ai loué un autobus urbain à Québec équipé d'un lecteur de cassettes, et j'ai invité les Québécois à faire un tour de ville qui s'appelait Québec Vision pour $1 au départ de la place Youville et visiter le vieux quartier, le vieux Québec. Mais j'avais fait occulter toutes les fenêtres du car, ce qui fait qu'il était impossible de voir l'extérieur. C'est seulement dans l'imaginaire du texte que le voyage pouvait se faire.
Et dernièrement, est-ce que vous avez fait une autre performance ?
Que j'ai fait comme récemment, oui.
À Moscou, je crois que vous êtes retourné. Alors, à Moscou.
À Moscou, oui, on est allé, nous sommes partis en vacances, et j'ai refait un geste que j'avais fait il y a 40 ans sur la Place Rouge avec mon ami Jean-Paul Albinet, geste qui à l'époque était très gardé par la police locale à côté du mausolée de Lénine. Geste qui a consisté à lire un journal blanc censuré à l'époque et moi de prélever ce qui était les signes de l'activité humaine sur la place Rouge. Et bon, c'était une action très rapide, très sauvage, parce qu'à l'époque c'était totalement interdit dans ce contexte brejnevien. Et un peu en hommage à cette action, 40 ans après, le mois dernier, j'ai refait quelques prélèvements. Et là, on voit la différence entre les objets d'il y a des années 70, comme les grosses cigarettes russes à l'époque avec des filtres très longs, et les Marlboro d'aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre que l'aspect cigarette.
Alors maintenant, nous allons lire des textes, des leçons de danse que vous avez écrits spécialement pour l'émission.
Alors c'est formidable, parce que Radio Couleur FM va enfin avoir une section sportive et gymnique, et qui m'a demandé, moi, en tant que maître autoproclamé de danse, de concevoir un programme radiophonique de danse. C'est donc une variation de Total Dance, qui est une danse absolument unique, qui arrive d'Europe du Nord et qui fait succès fort en Belgique et aux Pays-Bas, et qui peut enfin arriver ici, du côté du Nord Dauphiné, à travers plusieurs leçons. Donc c'est un cours par voie radiophonique, donc nous invitons les auditeurs à se mettre en condition chez eux, devant leur poste de radio, pour pratiquer cette leçon de danse qui les mettra en forme. Donc nous vous invitons à faire un peu de place dans votre salon, de mettre votre poste de radio en situation très visible pour bien l'observer, de lever le son, de veiller à ce que l'espace soit bien dégagé et que vous ayez une piste de danse tout à fait convenable pour pouvoir pratiquer avec bonheur par voie radiophonique le Total Dance, qui va commencer ce soir par cette première leçon qui s'appelle « L'échauffement ». Si vous êtes prêts, chers auditeurs, mettez vos conditions, respirez bien, regardez bien et fixez votre poste de radio. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de choses autour qui puissent vous gêner, qu'il n'y ait pas de voisins qui vous regardent. Comme ça, vous ne serez pas sujet à des moqueries. Maintenant que vous êtes prêts, levez le son de votre poste de radio. Pour réussir votre échauffement, montez progressivement en température en adaptant votre corps et votre mental aux enjeux de l'apprentissage chorégraphique dans votre salon. Affirmez votre présence spatiale chez vous par une authentique position verticale, les pieds en contact avec le sol et la tête au-dessus de vos épaules. La langue bien pendue, commencez par de simples assouplissements de votre épiderme, puis de votre échine et enfin de votre plexus solaire. Imaginez que vous pliez vos jambes à intervalles réguliers en vous penchant en avant puis en arrière et vice-versa, tout en gardant la tête droite, l'œil attentif et les pouces alternativement orientés vers le haut puis vers le bas. Une fois à température, stabilisez-vous. Respirez lestement en synchronisant vos deux narines. Votre échauffement peut s'accompagner de subtils battements de cils calés sur l'oscillation cérébrale de votre appétence à gesticuler tridimensionnellement, afin d'atteindre les objectifs stratégiques inhérents à votre nouvelle horloge dansante. Pensez à des gestes lents et mesurés. Restez bien raide, les oreilles bien dégagées, afin d'éradiquer de votre esprit toute résistance physico-mentale combattue à bras le corps et aux pieds levés. Contrôlez la montée en puissance de votre échauffement, afin de ne pas vous brûler les ailes et de perdre votre âme dans des circonvolutions gymnico-cérébrales inutiles. Une fois épuisé, validez en votre fort intérieur votre engagement pour la danse nouvelle et formalisez votre désir d'un accomplissement symbiotique de votre corps et de votre esprit, ainsi libéré des préjugés immobilistes, des potiches séculaires moralistes. Une fois fini, essuyez délicatement la sueur de votre front et quand vous aurez le sentiment de pouvoir appréhender sans complexe la piste et ses différents avatars, vous pourrez alors envisager de poursuivre votre évolution progressive dans le monde merveilleux de la danse universelle. Fin de la première leçon, prochaine leçon, la prochaine fois.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1, magazine Au fil des arts.
Rebonjour, chers auditeurs, amateurs de danse de salon. Nous sommes très heureux à Couleur FM de vous retrouver pour cette nouvelle leçon de danse par voie radiophonique. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 2, l'élancement. Donc nous souhaitons que vous soyez bien en forme, que votre salon soit toujours bien dégagé, que votre poste de radio soit branché sur couleur FM, très visible de votre part. Il n'y ait pas de choses qui puissent vous gêner, ni voisins, ni meubles. Et maintenant que vous êtes en tenue, élancez-vous au milieu de votre salon sur la nouvelle piste de danse de Total Dance pour la nouvelle leçon qui s'appelle l'élancement. Allons-y. 1, 2. Courbez-vous selon une courbe arrondie. Redressez-vous à l'équerre sidérale. Gambadez dans votre salon de façon désarticulée, un bras au-dessus de votre tête, puis esquissez des figures libres, de droit, et montez en épingle pour tenir le haut du pavé des fondements jubilatoires, de l'intime découverte des danses les plus traditionnelles aux plus contemporaines. Marchez sur des œufs, en ponctuant votre marche en avant par de fébriles enjambées gymniques, dont vous allez augmenter progressivement l'amplitude interséquentielle pour construire en un tour de mains et de reins l'édifice potentiel de votre danse personnelle. Clopinez avec audace dans votre salon, boitillez avec pusillanimité, claudiquez avec ferveur en observant toujours votre poste de radio. Fléchissez les jambes, baissez-vous en rythme et lancez-vous vers de nouvelles postures, damez le pion de la mollesse viscérale et affichez le sourire conquérant de la maîtrise, de la grâce physique et de l'éveil corporel que vous allez contrôler à l'emporte-pièce. Bondissez de gauche à droite les mains collées aux tempes, trépignez en retenant votre souffle, doigt dans l'œil, occupez l'espace de votre maison par une vertueuse succession d'exercices de mise en forme et source d'émulation généreuse. Piétinez au rythme de votre musicalité intérieure en accentuant l'adéquation géométrique entre vos moulinets belligènes et la configuration de délicates circonvolutions fugitives que vous dessinerez autour de vous. Après une molle déambulation haletante, adaptez progressivement votre tempo par un vibrant appel de votre ventre, mené tambour battant vers la ronde infinie des danses circulaires. Virevoltez, papillonnez les bras écartés, tournoyez, sautez à cloche-pied à la cloche de bois. Alternez des séquences tendues avec des moments d'élégante plénitude. Créez en vous la vive confrontation entre le désir débridé de la danse facile et la maîtrise moderato de vos flux instinctifs. Courez sur place, jetez-vous par terre, faites le poirier des gymnastes indolents, faites la chandelle lenticulaire ou faites le fier à bras. Repliez-vous vers votre poste de radio et considérez que vous avez atteint un niveau sommital qui vous permettra de poursuivre dans un puissant élan déferlant la danse absolue de toutes les pistes de danse de chez vous et d'ailleurs. Prochaine leçon sur Couleur FM, la prochaine fois. Rebonjour, chers auditeurs de Couleur FM, pour ce rendez-vous de la Total Dance, la danse faite chez vous, à côté de votre poste de radio. Ce soir, c'est la leçon numéro 3. Maintenant que vous avez fait deux leçons, vous commencez à maîtriser votre espace de danse, que vous êtes en forme, que vous avez l'échauffement suffisant, vous êtes en mesure d'aborder l'art de tout bien danser. Repositionnez-vous au milieu de votre salon face à votre poste de radio. Vérifiez que tous les objets autour de vous soient bien en place. Sentez-vous à l'aise en costume adapté. Leçon 3. Fort d'une maîtrise maîtrisée de main de maître, vous pouvez maintenant aborder en un magistral tour de main cette leçon qui va vous permettre d'atteindre d'arrache-pied le sommet curviligne de la danse universelle. Par un tangentiel lancé de jambes jointes, le dos au mur, vous allez entrer en intime résonance avec l'expression la plus aboutie des pratiques corporelles, intelligentes et élaborées. Pour vous engager sur la voie triomphale d'un contrôle absolu de toutes les danses dansées, condensées et dansables, engagez-vous dans une folle farandole et une carmagnole frivole qui vous feront atteindre par la cabriole girasol toutes les sciences de la danse, de la contredanse et de la jurisprudence. Soyez vite frénétique et excentrique, soyez harmonique et fantasmagorique, soyez onirique et spontanément giratoire. Prenez vos jambes à votre cou et filez la métaphore le long de la diagonale du fou pour enchaîner une suite de culbutes élastico-délictueuses qui vous feront rebondir à plate couture dans le grand huit de la rumba des familles combiné à une passacaille électroplatonique. Retournez-vous. Baissez-vous, souriez, redressez, raclez, ratez, râlez, râpez. Initiez alors une dorsale à l'épine badine. Pour un twist libérateur des genoux appuyé par une gaillarde acrobatique, renforcez du mouvement jazzy de vos bras rythmés sur une fréquence à décorner les bœufs pour un bœuf très swing. en rythme. Tapez du pied, tapez du poing, tapez dans l'œil du public, tapez-vous les cuisses. Revenez au centre de la piste de votre salon pour accomplir, dans un grand jeté ventral, une polka acidulée d'une coloration latino dont vous accentuerez avec désinvolture la courbure par une procédure sans bifure des jeux des figures enfin matures. Venez conclure ce mouvement dans la démesure de la moulure d'une gigue grandeur nature aux encornures folkloriques par une emmanchure de grande envergure à l'enflure bien dure. Levez le nez, plissez les paupières, pliez les pouces, arrondissez votre arrière-train. Terminez ici cette leçon numéro 3. Allez vous reposer quelques instants.
Couleur FM 97.1.
Chers auditeurs, maintenant, nous pensons que vous êtes chaud, que vous êtes au point pour la danse universelle de Tête and Dance proposée par Couleur FM, le seul cours de danse par voie radiophonique diffusé dans le Nord Dauphiné. Nous allons terminer par la quatrième leçon, la leçon finale, l'éblouissement, la gloire de la danse, le triomphe de votre salon devant votre poste de radio. Donc, remettez-vous en position, mettez-vous bien face à votre poste de radio branché sur Couleur FM. Ayez les oreilles collées et grandes ouvertes pour l'émission, pour bien nous entendre. Vrillez alors en chandelle pour échoir les pieds en avant dans une valse convulsive à la blanche pointée qui vous fera tourner sur un rythme ternaire le long d'une ligne de danse ouverte à la pirouette jambonnette. Déployez sans complexe vos compétences de toupillère acrobatique par l'éclatante réalisation d'un chapelet de toupies assouplies, par l'incessante rotation des multipliés de votre corps et par le battement frénétique d'une intense cadence d'inspiration viennoise. Puis, évadez-vous du pas glissé et du grand jeté de la valse pour bondir dans le pas de côté d'une jubilatoire square dance circulaire, prolongée par un rondo rectiligne soutenu par un florilège d'arpèges, d'un solfège dont vous avez désormais le privilège dans ce grand manège d'asperges animées. Tournicotez, soutenez, sautez, rythmez, chavirez, remplissez votre salon de votre danse frénétique. Par un sulfureux tourbillon vaporeux, enchaînez le voluptueux mouvement de vos genoux cagneux vers une gavotte aérienne qui vous permettra de dominer rapidement la polka country et le foxtrot hip-hop par un rap rappeux d'un Nijinsky bebop. Déployez votre voilure de danseur, bras écartés, envolez-vous, survolez un zouk par une envolée caoutchouteuse, entreprenez une break dance restaurée par une rythmique vivifiante, soyez enfin la Caroline Carlsson du triple passo double ambré au son du tambour de cavalerie, engagez un mélodieux sirtakis à la Merce Cunningham, digne des plus prestigieux cancans de music hall et des racontars de bas étage. Puis, par un magnanime relâchement généralisé des règles conjuguées de la bienséance et de la morale, lâchez-vous totalement dans un grandiloquent rock'n'roll industrialo-psychédélique néo-progressif où votre époustouflante tornade rockabilly tétanisera irrévocablement les petits rats du ballet russe et fera mordre la poussière à Diaghilev par une samba pulvérisée. Devenez simultanément l'Elvis Presley du quick dance accéléré, le Jerry Lee Lewis de la sarabande débridée, le Bill Haley du pogo décervelé. Le ventre creux, enchaînez immédiatement, ventre à terre, une triple danse du ventre synchronisée, rythmez vos contorsions spasmodiques avec des figures multifilaires du panthéon des arts chorégraphiques. Vivez de l'intérieur votre sinueux balancement ventral et sentez l'onde vibrante caracoler le long de vos avant-bras et de vos chevilles capiteuses. Revenez au centre du salon, le cou allongé et les pieds tournés vers l'extérieur, les doigts de pied bien écartés. Placez-vous au centre des débats fermiers pour royalement vous engager dans la sublime danse des canards. Prenez la cadence palmipédique, dos de linés en caquetance avec grâce et majesté lors d'un déplacement circulaire apaisé, en agitant gauchement vos bras repliés. La plénitude béate que vous allez enfin trouver dans la danse des canards vous permettra de respirer plus calmement après la fulgurance des étapes précédentes des leçons de Total Dance diffusées par voie radiophonique sur Couleur FM. Avec l'énergie qu'il vous reste, vous pouvez enfin finir en beauté par une authentique danse de Saint-Guy, finement reconstituée à l'authentique. Ce final, inoxydable, vient clore l'intrépide passage en revue de la revue composée des figures combinées des plus belles danses que vous venez enfin de maîtriser grâce à la leçon de danse radiophonique avec brio dans votre salon pour une réalisation éclatante et bien frappée. Saluez votre poste de radio et allez vous rhabiller. C'était le cours de Total Dance proposé par Alain Sneijers, maître autoproclamé de danse de salon.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompant. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Laissons donc ces deux femmes tronc qui a pourtant un beau tuba. Et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois. Pas du hautbois, de l'hélicon. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Ah, tu m'énerves. Ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Con.
La plus vaste et la plus profonde des sciences, celle qui d'ailleurs les contient toutes en elles-mêmes, qu'elles le veuillent ou non, la pataphysique ou science des solutions imaginaires, a été illustrée par Alfred Jarry dans l'admirable personne du docteur Faustrolle. Les gestes et opinions du docteur Faustrolle, pataphysicien, écrit en 1897-1898 et paru en 1911 après la mort de Jarry, contiennent à la fois les principes et les fins de la pataphysique, science du particulier, science de l'exception, étant bien entendu qu'il n'y a au monde que des exceptions et que la règle est précisément une exception à l'exception. Quant à l'univers, Faustrolle le définissait ce qui est l'exception de soi. Cette science à laquelle Jarry avait voué toute sa vie, les hommes la pratiquent tous sans le savoir, il se passerait plus facilement de respirer. Nous trouvons la pataphysique dans les sciences exactes ou inexactes, ce qu'on ose avouer, dans les beaux-arts et les laits, dans les activités et inactivité littéraire de toutes sortes, ouvrez le journal, la radio, la télévision, explorez l'internet, parlez pataphysique. La pataphysique est la substance même de ce monde.
Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans, en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.
Ainsi parlait Boris Vian. Alain Sneijers, pouvez-vous nous parler de la pataphysique et du collège de pataphysique auquel vous appartenez?
crois qu'à travers Boris Vian, qui a été membre du collège en 1957-58 et qui a fait beaucoup de publicité pour le collège, qui a été refondé en 1948, et les propos issus de Dr Fosterol, d'Alfred Jarry, tout est dit. Et je ne peux plus rien dire de plus.
Un peu plus quand même.
Si ce n'est que de rappeler que le collège existe toujours, que nous sommes dans la 143e année de l'ère pataphysique, qui a commencé il y a quelques jours, puisque le nouvel an était le 8 septembre de l'ère vulgaire, c'est-à-dire 2015, et nous sommes dans le mois de Cyclamen. Voilà, donc ça a été la définition d'un calendrier parallèle, tout comme on a pu voir au moment de la Révolution des calendriers différents, donc qui étaient déjà des pataphysiciens avant la date. Le collège est surtout un club d'artistes, de poètes et d'écrivains, voir qu'il y a d'autres des chercheurs. La dernière fois au banquet, il y avait des mathématiciens qui venaient, il y a des musiciens, il y a des symphonies pataphysiques. Et c'est un regroupement d'individus, de personnes très, très créatives, ça je le pense, qui interrogent les règles du quotidien, ces sciences qui ne sont pas des sciences, mais qui sont quand même des sciences, et qui pratiquent, ils le diront peut-être pas tous comme moi je le pense, ou comme je le fais en ce qui me concerne, cette pratique que nous évoquions tout à l'heure, qui est celle du détournement de fonction. Voilà, donc le collège va plutôt bien. À titre d'exemple, le publicateur, qui est le journal du collège, vient de sortir sur l'archéologie parallèle, et là j'ai un texte qui est publié, et qui est une simulation d'une communication scientifique à propos de l'unique rescapée architecturale de la tour de Babel, et qui est expliquée de façon extrêmement scientifique et scientifiquement argumentée. Voilà. Je ne suis qu'un modeste membre auditeur du collège et futur aspirant petit satrape, mais il faudra plusieurs années.
Alors, si on veut en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a des livres, une revue, où se documenter ?
Bon, évidemment, maintenant, c'est sur Internet où il y a beaucoup de choses sur la pataphysique. Alors, il y a une publication qui s'appelle Le Publicateur, mais qui est diffusée à nombre d'exemplaires très limités. Il y a des ouvrages, effectivement. Mais la pataphysique ne veut pas être dogmatique. La pataphysique est un serpent qu'on ne voit jamais, qui est quelque chose de très fluide et qui n'est pas défini comme une école, comme un club fermé, puisque, on l'a entendu tout à l'heure, tout peut être pataphysique.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un état d'esprit, ou est-ce que c'est quand même un peu plus qu'un état d'esprit ?
C'est à la fois une attitude et un regard.
Radio Couleur FM est heureuse de vous présenter son dessert coup de cœur qui fait aujourd'hui fureur dans le Nord défini. L'Eden Dream, une succulente compote de fruits défendus à la mode tentation, finement aromatisée d'un fin coulis vicieux. Un subtil zeste de fruits de la passion donne à ce dessert de légende l'exquise saveur moelleuse aux doux effets paradisiaques. L'Eden Dream est servi dans des verrines immaculées, teintées par les célestes accents d'un nectar de fleurs de pêcher aux couleurs de l'innocente dégustation. Ce légendaire mets est à consommer sans modération dans l'intimité des fins de repas délicieusement coupables. Ce dessert se trouve désormais sur toutes les bonnes tables de Bourgoin-Jallieu.
En venant ici au studio, j'ai croisé l'empêcheur de tourner en rond, qui était connu pour manger de la vache enragée aux pieds levés et aux frais de la princesse, et qui compta pour du beurre en sautant du coq à l'âne pour ne pas être le dindon de la farce.
Et moi, j'ai vu en entrant la figure hilare de la doreuse de pilules quand, en avalant des couleuvres,
elle peignait la girafe menée par le bout du nez pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or en renvoyant l'ascenseur entre le marteau et l'enclume.
Moi, j'ai encore à l'esprit l'image de la cravate mi-figue, mi-raisin que mit le gendre de la fille du tireur de verre du nez Notre voisin, le jour où, ventre à terre, il rendit son tablier pour porter la culotte à bride abattue en lâchant la proie pour l'ombre.
Et je voulais vous dire que je ne pourrais pas oublier le leveur de doute quand il enfonça, à la fortune du pot, une porte ouverte en courant plusieurs lièvres à la fois et en posant sur le fil du rasoir un lapin dans un panier de crabes qui prirent tous des vessies pour des lanternes.
Quant à moi, je n'oublierai jamais la tête pathogène des personnes présentes à l'enterrement du point mort et de l'angle mort. Ce fut une bien sinistre cérémonie, tirée par les cheveux, qui mit un point final au point de rosée de ce cimetière itinérant ainsi remis à l'endroit.
J'ai vraiment vu le passeur de pommade qui mit par-dessus la jambe la charrue avant les bœufs pour mener une authentique politique de l'autruche face aux abonnés absents, partis sans coup férir, marcher sur des œufs myopes comme une taupe.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pour vent avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odu, la mère Ubu.
Tu cherches la petite bête.
Ah non, tu te prends pour un canard boiteux.
Tu te bouscules le portillon.
Tu casses trois pattes à un canard.
Prends-toi pour le dindon de la farce.
Prends de la graine en un tour de main.
Tiens la rampe en mettant ton grain de sel sur le bout de ta langue.
Tiens-toi à carreau pour mettre la charrue avant les bœufs.
Défends ton précaré à tout bout de champ.
Prends la clé des champs en tout bien tout honneur.
Jette une pierre dans ton jardin.
Jette de l'huile sur le feu.
Jette le doute à bâton rompu.
Jette l'argent par les fenêtres.
Jette le bébé avec l'eau du bain.
Jette l'éponge à bras raccourcis.
Aie le bras long comme un jour sans pain.
Retire le pain de ta bouche au fil de l'épée.
Fais fine bouche au fil du rasoir pour des prunes.
Ta faim ne justifie pas les moyens en marchant à côté de tes pompes.
Marche sur la tête, ventre à terre et dos au mur.
Mets-toi à plat ventre devant le roi de Prusse, à Pâques ou à la Trinité.
Mets d'arrache-pied les petits plats dans les grands à la Saint-Glinglin.
Mets les pieds dans le plat sans tambour ni trempette.
Coupe la dragée haute, l'herbe sous le pied du bouc émissaire.
Coupe la branche sur laquelle tu es assis en tenant le haut du pavé.
Coupe-toi les cheveux en quatre pour ne pas avoir froid aux yeux.
Arrive comme un cheveu sur la soupe au doigt et à l'œil.
Rince-toi l'œil à bride abattue pour tourner autour du pot.
Fourre-toi le doigt dans l'œil jusqu'au coude à la fortune du pot.
Fourre-toi les doigts dans le nez à la barbe d'une éminence grise.
Croise les doigts pour tirer le diable par la queue collée montée.
Tire à boulet rouge la queue entre les jambes aux pieds levés.
Prends tes jambes à ton cou sans coup férir.
Prends la poudre d'escampette en essuyant les plâtres la main au feu.
Mets le feu aux poudres à la cloche de bois par Mons et par Vaux.
Bois du petit lait assis entre deux chaises sous les feux de la rampe.
Mène une vie de bâton de chaise pour faire flèche de tout bois à la belle lurette.
C'était un texte qui s'appelle Apostrophe à deux voix d'Alain Sneijers. Alors Alain, vous avez le mois passé eu un événement mémorable en Picardie. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
En deux mots, oui, j'étais invité par l'université de Picardie Jules Verne pour la leçon inaugurale, c'est-à-dire la première conférence de l'année académique 2015-2016, dans le grand amphithéâtre de l'université. En m'invitant, il souhaitait quand même avoir quelque chose d'un petit peu différent pour les nouveaux étudiants de l'université, toutes disciplines confondues. Et j'ai pris un peu au pied de la lettre la notion très doctorale de la leçon inaugurale. Et comme je l'évoquais, j'ai présenté la fameuse brique retrouvée de Babel avec un argument scientifique tout à fait solide pour les présenter aux étudiants, quels que soient les départements. Mais la conférence ayant duré 1h10, la partie consacrée à la brique en terre écrasée n'a duré que 10 minutes. Ça veut dire qu'il fallait précéder d'un accompagnement périphérique de mots un peu divers et variés qui ont jeté un peu le trouble. Je prends quelques exemples de séquences préliminaires. Tout d'abord, j'avais les règles de sécurité. Donc, une voix enregistrée lisait les règles de sécurité en cas de tremblement de terre, d'échec aux examens, d'inondation, de jalousie entre étudiants et ainsi de suite, mais qui reprend les textes sécuritaires affichés dans les lieux publics. Après, j'ai une longue litanie très ennuyeuse annonçant toutes les personnes absentes, en commençant par le président de l'université, citant véritablement son nom, mais progressivement, ça s'est mélangé par les noms de chairs que j'ai inventés tout à fait impossibles. Alors, je dois dire que j'ai fait ça à deux voix avec une comédienne, Isis Gosselin, qui a été mon assistante pour cette opération, qui, après, a interprété quelques extraits de la leçon de danse que vous avez entendu sur votre antenne. Et comme c'est un lieu universitaire, donc académique, et il fallait avoir comme objectif d'atteindre les palmes académiques, donc Isis a dansé avec des palmes de plongeurs, ce qui était très difficile, très soutenu par un public enthousiaste d'étudiants quand même étonnés. Et puis à la fin, ça s'est fini par quelques échanges de colibets et ainsi de suite. C'était donc la conférence inaugurale.
Alors, le mois d'octobre a été très riche parce que vous étiez aussi à la FIAC à Paris.
Alors, c'est une petite présentation à la FIAC à travers le groupe Intel pour annoncer une sortie imminente pour le 5 novembre prochain d'une nouvelle édition. Alors, quand on parle d'édition d'art, ça peut être des estampes, des affiches, des objets en tirage limité. Et cette fois-ci, nous avons édité 100 chemises d'hommes et de femmes, numérotées avec certificat de 1 à 100, avec un motif touriste, qui reprend une action ancienne du groupe datée de 1978. Et nous avons donc du coup imaginé un coffret luxe pour mettre ces chemises de tourisme. Donc, et c'est donc présenté en avant-première sur le stand Michel Didier à la FIAC Paris.
Il me semble que vous préparez également quelque chose pour la BNF, la Bibliothèque nationale de France.
Oui, j'ai quelque chose en préparation dont les dates changent régulièrement. Mais bon, c'est aussi un détournement puisque j'étais invité pour imaginer une ponctuation un peu décalée de ce bâtiment à Paris que vous connaissez au bord de la Seine avec ses quatre énormes tours et son énorme patio avec un jardin inaccessible au milieu. Et donc j'ai conçu une signalétique parallèle complètement décalée et qui reprend le vocabulaire de la bibliothèque mélangé avec le vocabulaire architectural. Et les panneaux, et ma signalétique est faite avec les mêmes panneaux, la même typographie, la même couleur que la signalétique officielle du bâtiment. C'est-à-dire, quand on arrive dans le bâtiment, on est à la fois interpellé par la signalétique qui désigne la salle des archives, par exemple, mais tout de suite à droite, j'ai un panneau dans le même style typographique qui dit dépose minute du dépôt légal. Puis un peu plus loin, comme c'est un grand hall très vaste, on peut lire le texte hall. Entre petits, de romans, de gare. Et ainsi de suite. Un peu plus loin, on a le département des livres raturés, l'escalier incunable, et puis jusqu'à des choses un peu plus farceuses, comme des latrines indexées ou des donjons mémoriels. Et ainsi de suite. Donc il y a un parcours qui est proposé dans les deux halls Est et Ouest et les grandes coursives de la BNF de Paris, avec cette signalétique tout à fait singulière.
Alors tout ça demande un grand travail, des heures et des heures de travail. Comment travaillez-vous ?
Ben, tout le temps.
Tout le temps ?
Tout le temps, oui, oui. Ben, oui, parce que c'est... Et puis une idée en appelle une autre, donc on a toujours envie d'en faire un peu plus. Après, il y a un temps aussi nécessaire, une fois la conception ou les intentions trouvées, de mise en forme, de réalisation, ce qui peut être très long. Pour nos chemises, ça a été un très long travail technique d'ajustement. Plus, il faut construire des coffrages, il faut trouver des portants. Là, on a joué avec le groupe aux assembliers de boutiques de vêtements. Donc, à choisir des couleurs de porte-manteaux, des cintres, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est des aventures différentes.
Il y a aussi un autre événement l'année prochaine à Grenoble, un très grand événement.
Alors nous travaillons dessus, c'est difficile. Le Centre d'art national qui s'appelle le Magasin à Grenoble a invité un de mes amis qui s'appelle Michel Giroux pour une carte blanche. Et l'objectif, si tout marche, mais c'est ça fait des conditions difficiles, c'est de réaliser une grande exposition qui racontera un peu une production d'artistes un peu marginaux ou un peu parallèles en France depuis 1946. Et je travaille un peu là-dessus avec eux. Bon, non seulement je présenterai mon travail, mais surtout je voudrais que ça existe et qui soulignera cette exposition quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait mis en avant, qui est cette filiation avec le texte et le mot. C'est pour revenir au propos de tout à l'heure, où on peut s'apercevoir qu'en France, il y a quand même un rapport à l'écriture, à la langue, au langage, beaucoup plus fort que chez les anglo-saxons ou les italiens, par exemple. Et on a ça à travers les mouvements artistiques. Bon, on a évoqué les pataphysiciens, mais on peut dire ça pour les situationnistes, pour les lettristes, pour tous ces mouvements, même qui ne sont pas forcément définis avec un isme quelconque, tous beaucoup issus de Dada, bien sûr, et qui déclinent de façon très particulière la poésie dans les arts plastiques, les arts plastiques dans la poésie. Donc il y a une très grande porosité. C'est ça que nous allons essayer de mettre en espace là-bas à Grenoble à partir du 6 février prochain, 6 février étant la date anniversaire du centenaire de l'ouverture du cabaret Voltaire à Zurich, qui est la date anniversaire du mouvement Dada. Et nous essayons par différents moyens, différents lieux, de célébrer cet événement, non pas pour son fait historique uniquement, même si c'est un acte fondateur, mais parce qu'aussi pour redresser quelques aspects historiques, et nous considérons tous à peu près que c'est un mouvement constructif et pas destructeur, comme les surréalistes ont laissé croire pendant des années.
It was a large room full of people. All kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain?
Laurie Anderson, alors Alain Steiner, vous avez sorti un livre qui relate un petit peu tout ce que vous avez fait.
Non, tout non.
En partie?
Oui.
Vous avez écrit un petit texte, c'est un avertissement au lecteur. Est-ce que vous pouvez nous en lire quelques bribes?
Oui, c'est un ouvrage qui m'a été proposé par les éditions L'Armatan à Paris. Je ne savais pas très bien quoi faire au début, eux non plus d'ailleurs. Et j'ai fonctionné par soustraction pour revenir à moi. Donc, Donc il fallait quand même préciser, pour que le lecteur ne se trompe pas, que cet ouvrage n'est pas un recueil de poèmes bucoliques, ni un guide touristique à sensations. Je ne voulais pas faire un livre de recettes remarquables, d'autres le font très bien. Je ne voulais pas non plus écrire mon journal intime, approximatif, ça aurait été très approximatif. Je n'étais pas parti pour une bande dessinée sans images, pas vraiment une leçon inaugurale, caduque. Ce n'était pas non plus un mode d'emploi pernicieux, ni un roman à dormir debout, encore moins une biographie ennuyeuse. Peut-être un fourre-tout impalpable, peut-être une encyclopédie illustrée sans images, un témoignage non vécu, un catalogue de jardinage, sûrement pas. Probablement pas non plus un essai du premier coup, ni un mémoire de potache, encore moins une fiction unijambiste. À la rigueur, un almanach à suspense, un manifeste endormi, une thèse alambiquée, mais certainement pas non plus une saga sarcastique, un opus enchanteur, un registre annoté, un rapport fleuri. Mais, tout compte fait, c'était des mots pour retracer en quelques pages, 180, un parcours artistique, un peu sous forme d'un almanach, un calendrier qui commence en 1975 et qui se termine en 2015. Et chacune des années de cet almanach de texte sans images est illustrée par une, deux ou trois actions réalisées à cette époque. Chers auditeurs, je voudrais vous dire encore un mot. Juste un mot pour vous dire, pour vous redire un mot, ou même des mots, quelques mots pour vous dire, pour vous redire qu'avec quelques mots et des mots qui, avec les uns et les autres, pourront glisser les uns sur les autres, toujours sur les autres et encore sur les autres, les uns avec les autres. Des mots, chers auditeurs, pour vous dire un propos bien à propos, un propos bien calé, dans le décalé d'une case sensée, d'un sens caché par un cache accordé, selon un accord attablé à la table encordée d'une corde encollée, par une colle empâtée, d'une pâte empoulée, d'une poule avancée à l'avance balancée comme une balance coudée, d'un coude pimenté, d'un piment guidé par le guide, sermonné selon un sermon bien calculé par un calcul noyauté, d'un noyau poudré dans une poudre clôturée par une clôture codée selon un code bouché, dans une bouche fermée, d'une ferme soupirée, en un soupir éclairé par un éclair gommé, d'une gomme antidatée, par une date plaquée sur une plaque pliée sous un pli torsadé, d'une torsade agrafée, avec une agrafe enflammée par une flamme, palmée à la palme, inspectée par un inspecteur, tuyautée d'un tuyau raboté, par un rabot meulé sous une meule pistée, sur une piste angoissée, par une angoisse roulée, en une roulade laquée, d'une laque râpée, par une râpe grippée avec une grippe teintée d'une teinte drapée dans un drap beurré d'un beurre, rêvé dans un rêve troué d'un trou basé sur une base, aiguité selon une aiguille rythmée d'un rythme sulfaté à la sulfatacée, dans une tasse bien frappée, d'une frappe vernissée, d'un vernis âgé, d'un âge freiné par un frein ruiné, dans la ruine enrubannée d'un ruban profané, par un profane chicané, dans une chicane dansée, d'une danse empoisonnée, d'un poisson pincé par une pince stylée, d'un style givré comme un givre vitré sous une vitre armée, d'une arme blâmée par un blâme clamé à la clameur miroitée, du miroir avoiné, d'une avoine plagiée par un plagiat réclamé dans une réclame flashé, comme un flash critiqué par les critiques fouettées avec un fouet, rampé sur une rampe imagée avant de devenir une image. Une image phrasée avec des mots, et des mots et des mots, encore des mots, qui disent et qui glissent les uns sur les autres, pour vous dire que les mots glissent et s'envolent sur les ondes de Couleur FM.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Thank you.